plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Notre invité aujourd'hui est un cinéaste renommé, multi-récompensé, entre autres d'un ours d'or au Festival de Berlin il y a un peu plus d'un an. Il a tourné dans des lieux très divers, que ce soit au zoo du Jardin des Plantes, au Louvre, dans une école d'infirmière, voire même à la maison de la radio. Et il aime à dire qu'il ne tourne pas sur des sujets, mais avec, de son nouveau film Averroès et Rosa Parks. On dira donc que c'est un documentaire non pas sur la psychiatrie, mais en psychiatrie. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Nicolas Philibert.
Bonjour.
Sur l'Adamant, votre précédent film s'installait dans un hôpital de jour flottant en bord de Seine pour tracer des portraits de patients à travers leurs activités artistiques. Dans ce nouveau film, Averroès et Rosa Parks, vous posez votre caméra dans un hôpital psychiatrique francilien, l'hôpital Esquirol, et il y aura un troisième volet, La machine à écrire et autres sources de tracas qui sortira, si je ne me trompe, en salle le 17 avril. Oui. Bonjour Linda De Zitter.
Bonjour.
Vous êtes je cite le générique d'Averroès et Rosa Parks, la complice en réalisation de Nicolas Philibert dans cette aventure. Et vous êtes aussi psychanalyste et psychologue clinicienne au pôle Paris-Centre, ce qui veut dire, j'imagine, que vous travaillez aussi à l'hôpital Esquirol.
Je travaille aussi dans ce secteur, oui.
À l'affiche aussi ce samedi de tous les cinémas du monde, le journal du cinéma de Sophie Torlotin et le nouveau James Bond.
The name's Bond. James Bond.
Je vous le donne tout de suite ?
Mais oui.
Alors je vous le dis, enfin en tout cas, c'est d'après le magazine The Sun, ça y est, on sait qui endossera le smoking de l'agent 007.
C'est une femme ?
Et non, c'est un homme, Aaron Taylor Johnson, l'acteur que l'on a vu récemment dans Bullet Train, est l'un des favoris des bookmakers anglais depuis des années. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a encore été faite.
On en reparle tout à l'heure.
Déjà que dehors, pour nous, c'est irrespirable. Alors, si on, à l'hôpital, on peut pas respirer, on est foutu, quoi.
Vous savez, c'est chez Nietzsche, il y a la force vitale. Mmh. La force vitale.
Moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur. Mmh. Le reste, pour moi, ça n'a pas d'importance.
Je sais qu'il va falloir que j'ai un suivi et tout, mais... Juste... Moins se rentrer sur la psychiatrie, quoi, parce que, enfin...
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets futurs ? Qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous voyez un peu les choses par la suite ?
Mes projets ? À partir du moment où ça va bien, qu'est-ce que tu vas bouger le traitement ? C'est justement là qu'il faut laisser le traitement, espèce d'idiot de psychiatre de...
Ben ok, c'est bon, c'est fini ! C'est fini !
Qu'est-ce qu'on pourrait faire la nuit pour que vous soyez rassurés ?
Et nous, on est où ?
Ah bah alors, on est on là de ce côté, là.
C'est chez nous, là ?
Ben, c'est...
C'est un drone qui a pris ça ?
Oui. Ouais, bah oui.
C'est un hélicoptère, ça.
Ouais, un drone.
Un drone. Un drone. Ah, une sorte d'objet qui se peut...
Ouais.
Oh la vache.
La bande-annonce d'Averroès et Rosa Parks entre Jésus-Christ de Nazareth, force vitale et drone flottant sur les bâtiments, assez verdoyant, je dois dire, de l'hôpital Esquirol. Je crois qu'il est en bord du bois de Vincennes. Au rez-de-chaussée, c'est Averroès. Rosa Parks, c'est à l'étage. Vous me corrigerez si je me trompe, Nicolas Philibert et Linda De Zitter. Alors, c'est un lieu de soins, c'est un lieu de convalescence, c'est aussi un lieu de souffrance. Donc j'imagine qu'on n'entre pas dans un lieu pareil facilement, Nicolas Philibert.
J'ai envie de dire heureusement que
on rentre pas dans un lieu comme celui-là, comme je dirais comme dans un moulin, parce que venir filmer des gens qui sont en souffrance, c'est compliqué, c'est délicat, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de tact. Mais du coup, ça vous pousse à une belle exigence, au fond. Hein ?
Est-ce que Linda de Zitter, vous avez aidé, vous avez facilité cette entrée de l'équipe de tournage, enfin, qui, j'imagine, est quand même très limitée ?
Je dirais que c'est plutôt le tournage de Sur l'Adamant qui a facilité Nicolas Philibert à être accueilli dans nos services d'hospitalisation. Parce que, par exemple, François, qu'on voit au début chanter la bombe humaine, nous dit dans Sur l'Adamant qu'il est hospitalisé. Et lors de ce tournage, Nicolas Philibert est allé le rendre visite plusieurs fois à l'hôpital. Donc c'est dans ce tissage-là relationnel que Nicolas, petit à petit, a pu être facilement accueilli.
D'ailleurs, on a l'impression que, parce qu'au début, vous avez tourné Sur l'Adamant et il n'y avait pas de projet de faire un triptyque. Donc, on a l'impression que c'est... Vous parliez, Linda, de François, mais il y a aussi Muriel qu'on va retrouver. Donc, il y a des personnages qui reviennent. Et on a l'impression que c'était aussi l'envie de les suivre, de rester avec eux, de tourner deux et trois films. Enfin, de tourner un deuxième, puis un troisième film.
Oui, il y a de ça. Il y a en tout cas l'envie après... Alors que je suis en train de tourner ce film sur l'Adamant, l'envie d'élargir le cadre, le champ, et de filmer à l'hôpital, au fond, comme le contrepoint, comme le contre-champ de Sur l'Adamant. Sur l'Adamant, c'est un lieu, c'est ce centre de jour, il y a des ateliers, il y a un bar, les patients viennent pour être avec les autres dans un collectif. J'ai eu envie, au fond, de montrer un versant peut-être moins souriant, l'hôpital, à travers les échanges, les entretiens face à face, montrer, au fond, une autre dimension, un autre aspect de cette psychiatrie-là, c'est-à-dire d'une psychiatrie qui essaye, alors qu'elle est très attaquée, très dévastée, qui essaye de tenir, qui essaye de résister contre... J'ai presque envie de dire contre la bêtise, enfin, contre tout ce qui écrase aujourd'hui la parole, tout ce qui écrase les relations, tout ce qui pousse à ne garder les patients que un minimum de temps, tout ce qui pousse les bien des soignants à quitter leur boulot parce qu'ils ne peuvent plus l'exercer comme ils le souhaiteraient dignement. Voilà, j'ai eu envie de montrer cet aspect, l'hôpital, les entretiens, ce travail d'écoute que les soignants essayent de faire, qui est un travail de dentelle. C'est tout ça, oui.
C'est un travail, du coup, effectivement, qui prend du temps. Et contre, on voit bien hein, tous les intérêts ouais. Actuellement, on va vers justement réduire... tout ce temps allait à une sorte d'efficacité, je ne sais pas
oui,
si ça...
bien sûr. Le temps est écrasé aujourd'hui, ça, c'est pas nouveau, et c'est pas seulement en psychiatrie, c'est un peu partout.
Mais en psychiatrie, il faut ce temps-là.
On vit dans un monde qui va de plus en plus vite, et dans l'hôpital, du côté des soins somatiques, là aussi, aujourd'hui, on vous opère de la vésicule, et 3 heures après, hop, dehors. En psychiatrie... Alors, c'est beaucoup plus. C'est bien plus problématique parce que précisément, les soignants voudraient pouvoir écouter, prendre le temps d'aider chacun à renouer un lien, retisser un lien, construire un atelier, construire du lien avec les patients qui ont besoin de temps pour se retrouver un peu. Et cette dimension-là est très affectée.
Oui. Et justement, effectivement, dans chacun de ces trois films, que ce soit Sur l'Adamant, ce nouveau film Averroès et Rosa Parks, ou bien La machine à écrire, on en reparlera, mais ce sont trois pôles de résistance, justement, oui. Où les gens prennent leur temps. On imagine que ce temps est menacé. Mais justement, je voudrais revenir sur La moindre des choses, qui est un film merveilleux que vous avez tourné à la fin des années 90, à la clinique de la Borde. Oui. Et c'est un film qui a eu un énorme succès, à la fois critique et public. Justement, qu'est-ce qui a changé depuis ? Même si on est bien d'accord que la clinique de la Borde est un lieu un peu particulier.
Déjà, on a supprimé en psychiatrie, et Linda me corrigera peut-être, mais on a supprimé des milliers de lits. Hein ? On a le sentiment que la psychiatrie, il n'y a jamais eu d'âge d'or de la psychiatrie, mais
Linda.
Aujourd'hui, Linda, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. Si, hein ?
Oui, déjà à l'époque, la Borde, la moindre des choses, c'était déjà quelque chose très à contre-courant du mainstream. Et c'est sans doute un aspect structurel de la psychiatrie, qu'on est à contre-courant, que c'est une dimension politique de ce travail-là, parce que de plus en plus, depuis en tout cas l'année 95 et jusqu'à maintenant, puisque vous faites référence à ce film-là, notre société est de plus en plus capitaliste, gestionnaire, sécuritaire, de plus en plus désubjectivante, déshumanisante. Et donc, nous sommes de plus en plus considérés comme des êtres biologiques, génétiques, faits que de volonté et d'effort. Et pourtant, le film nous montre bien que nous pouvons nous retrouver dans des états d'engourdissement, d'embarras, malgré notre volonté, malgré notre effort. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a les singularités qu'il s'agit de continuer à accueillir. Et ça, c'est de plus en plus difficile dans un monde comptable, technocrate et un monde d'algorithmes. Et
justement, comment on arrive dans certains lieux à résister, peut-être pas totalement, mais en tout cas à résister un peu à ce que vous décrivez hein, comme un rouleau compresseur capitalistique, Linda De Zitter. On en reparlera tout à l'heure, mais avant, on écoute À la montagne. C'est un choix musical de notre réalisateur Jérémy Boucher.
Je suis souvent dans un état lamentable, et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne, mes parents misent sur moi, c'est parental. Je suis souvent dans un état lamentable, et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne, mes parents misent sur moi, c'est parental. Jamais sûr d'où je vais, donc je ferme les yeux. J'hésite entre croire et douter, je fais les deux. Dans mon monde, il s'agirait de ne pas finir seul. Je fais tout à l'envers avant la charrue, je mets les pneus. Tellement de questions résonnent dans ma tête, maintenant je gère la pression comme sur plateau télé. Dernier informé de ce qui passe à l'antenne, ce soir j'éteins mon tel et je reste à la maison. Je me laisse aller, je fais tout feeling high. Ça fait des années, c'est pas prêt d'être fini. Yeah, yeah, yeah. Je suis souvent dans un état lamentable, et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne, mes parents misent sur moi, c'est pas rentable. Je suis souvent dans un état lamentable, et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. En réalité, je suis bien alité, ce que j'ai envie d'être. J'aime pas la vie d'adulte, j'aime bien la vitesse, mais je m'accroche encore à trop de banalité. Non, j'étais pas discret, j'étais timide, j'aimais trouver 10 000 raisons d'être optimiste. Il pourrait même arriver la pire histoire de ma vie que je relativise. Ouais, non, personne pourra me changer, surtout pas une meuf, surtout pas une soirée si je suis pas d'humeur. Quand j'ai un truc en tête, je me tue à la tâche, je crois qu'il manque un état, je me suis trop allumé. Je suis souvent dans un état lamentable, et ça va. C'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne. Mes parents misent sur moi, c'est parental. Je suis souvent dans un état lamentable, et ça va, on s'y fait, c'est l'avantage. J'ai besoin de vacances à la montagne. Mes parents misent sur moi, c'est parental.
Vous êtes bien sur RFI dans tous les cinémas du monde avec nos invités Linda De Zitter et Nicolas Philibert pour parler d'Averroès et Rosa Parks, votre nouveau film Nicolas Philibert. Linda De Zitter, tout à l'heure, vous parliez justement de ces pôles de résistance. Comment on arrive justement à résister à la compression des budgets, au temps imparti pour les consultations ? Parce qu'on voit bien hein, que cette cet hôpital Esquirol, en tout cas dans ses deux ailes, Averroès et Rosa Parks, c'est un peu en soi un lieu privilégié.
Alors, c'est vous qui utilisez le mot résistance et c'est vous qui utilisez le mot privilégié. Mais je crois qu'en effet, puisque vous avez fait le lien avec la clinique de la Borde, il y a là quelque chose qui nous est très cher et qui fait boussole dans notre métier de tous les jours. C'est comment faire en sorte que les uns et les autres, on soit un peu sujet de la chose. Et une des premières choses, c'est d'y associer les concernés, les personnes concernées. C'est de faire un quotidien avec les patients. Et ce film est fait avec les paroles des concernés, sans commentaire. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comment faire pour que les uns et les autres, on soit un peu sujet de la chose, qu'on co-gère, qu'on co-anime un peu le quotidien.
Et que les patients soient sujets aussi. C'est absolument ça le plus important.
Absolument. Mais donc, c'est traverser ensemble le quotidien. Et donc là, par exemple, à Esquirol, bon, ce n'est pas l'accent dans le film d'Averroès et Rosa Parks de Nicolas, mais on entend dans les paroles de Laurent, la respiration, il faut autre chose, il faut de l'ailleurs. Il faut soigner l'ambiance, donc l'institution. Et, on aperçoit la serre, un endroit co-géré par patient et soignant, ça modifie un peu l'ambiance, ça nous soigne un peu. Et on voit la buvette, où les uns et les autres se délogent aussi de nos statuts dans lesquels on est attendu, patient, soignant. Ben non, on peut aussi mettre en scène, mettre au travail le potentiel soignant du peuple, la fonction soignante des patients, des uns envers les autres.
Vous savez ce que c'est devant le psychiatre ?
Dites-moi.
Le psychiatre, c'est docteur Jacob, c'est docteur de lettres. C'est pas parce que vous êtes là. Hein. C'est docteur César et Fian, c'est des gens qui ont une synthèse. C'est des gens qui sentent les choses. Dans le football, il y a des buteurs, il y a des avant-centres. Il y a des mecs qui marquent des buts. Il y a Mbappé. Mbappé, c'est un gars qui... Moi, j'ai été élevé... Dans la vie, il y a la vue... Il y a l'ouïe, il y a le flair. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est compliqué à expliquer.
C'est compliqué à expliquer. On est frappé, Nicolas Philibert, par la langue des patients. C'est magnifique de comparer un médecin psychiatre à un génie du football comme Mbappé. Enfin, voilà, il y a des jeux de mots, il y a des images, il y a des effets de montage magnifiques.
Ah oui, au fond, j'avais envie de faire un film sur la parole, c'est pas la première fois chez moi, mais c'est cette dimension qui m'attirait. Et en psychiatrie, bien souvent, les personnes qu'on y rencontre ont un usage des mots qui vous déroute, qui vous étonne, qui est souvent très singulier. Et j'avais envie de que ce film donne à entendre la parole des patients. Alors, et de jouer avec la rythmique des mots, des entretiens. Il y a des entretiens dans lesquels le patient parle d'une manière très très saccadée. Chez un autre, la parole sera plus difficile. Il y aura des temps, des silences, c'est tout ça qui est beau et qui est souvent écrasé. La parole est écrasée en psychiatrie, mais elle est écrasée aussi souvent à la télé par le montage haché, de plus en plus haché. Quand on voit une émission de plateau, les gens n'ont plus jamais la possibilité de chercher les mots.
De développer leur pensée aussi.
De développer leur pensée, de chercher les mots. On est sans cesse coupé. C'est un peu... C'est bien triste.
Linda de Zitter, il y a une dame aux cheveux gris, Laurence, je la cite, hein, « Un jour, j'ai demandé un câlin, ils m'ont donné un yaourt. »
Et c'est horrible, si on y pense.
Ouais.
Oui, oui, oui.
Enfin, ça dit une vérité terrifiante.
Absolument, absolument. Comment faire qu'une institution puisse être quand même suffisamment accueillante, humaine, et elle... pose la question de base. l'affect. L'affect. Et comment cette phrase nous affecte, hein? Comment fait-on avec ça, soignant, soigné, citoyen, et avec la douleur de l'autre? Est-ce qu'on retourne la tête? Est-ce qu'on essaye de l'accueillir? Oui, absolument. C'est comme si elle nous demandait, bon, est-ce que je suis encore suffisamment humain pour que vous vous intéressez à moi? Ça, c'est Pierre de Lyon qui nous dit ça, et j'entends ça.
Et c'est pas la seule.
Oui, on entend.
C'est la deuxième fois. En fait, absolument. C'est la deuxième fois dans le film quand Laurence dit cela. Mais oui. Au tout début, Nicolas, un homme le dit aussi. Enfin, il demande, il parle de câlin aussi. Il emploie le même terme.
C'est Laurent, oui.
Oui, on entend plusieurs fois dans le film ce besoin d'un contact tactile, d'être qu'on vous prenne la main, peut-être qu'on vous prenne dans les bras. Au fond, ce qui résonne, c'est la solitude. Des personnes qui sont là, qui sont angoissées, parfois abandonnées de leurs amis, parfois on n'imagine pas la souffrance que ça peut être quand on est affecté par une maladie psychique, par des troubles psychiques. On est souvent délaissé, abandonné, marginalisé, stigmatisé, regardé de travers.
Ça fait
travers.
Peur aussi, ça fait peur, hein, la maladie psychique.
Ça fait peur, mais qui a peur? Ce sont d'abord les patients qui ont peur, qui sont angoissés.
Absolument. Et Laurence, avec cette phrase, elle nous dit justement que le début du soin, c'est dans la relation. C'est comment on essaye d'instaurer un lien avec ces personnes qui se sentent attaquées dans leur lien à eux-mêmes, au monde et aux autres, et même dans la langue. C'est en tentant d'instaurer une relation le temps qu'il faut et aussi longtemps qu'il faut. Et tout ça est bien menacé et passe parfois par la parole.
Et du coup, Nicolas Philibert, comment vous avez été accueilli par les patients? Alors certains vous connaissez, bien sûr, mais la plupart non. Ça se voit d'ailleurs à l'écran, c'est-à-dire il y a une forme de timidité, parfois de peur un peu, en tout cas d'appréhension, et puis certains se livrent avec une confiance totale. Vous êtes quand même à 1m2, hein, ou moins de 2 mètres.
Oui, quand je filme ces entretiens, d'abord ils sont filmés à 2 caméras parce que je souhaite filmer celui ou celle qui écoute tout autant que celui ou celle qui parle. Le soignant qui est là et qui tend son regard, qui soutient du regard, qui soutient la parole, qui aide parfois celui ou celle qui parle à reformuler des choses.
Parfois, vous êtes apostrophé.
Je suis proche avec les uns et les autres. Mais en effet, il a fallu bien sûr une petite marge d'approche pour gagner cette confiance. Et alors je me suis adressé, j'ai sollicité pour filmer ces entretiens, je dirais a priori les patients avec qui j'avais construit un petit lien, construit avec qui il y avait déjà un peu de connivence. Je me suis aussi adressé de préférence à celles ou ceux qui n'étaient peut-être pas trop incohérents dans leurs paroles. J'ai donc fait une sorte de
casting. Dire
le mot est une sorte de casting, enfin.
De choix.
De choix, voilà. Après, vous savez, je suis quelqu'un qui n'insiste pas. Je propose, j'invite quelqu'un à. Voilà, mais si un patient, une patiente me dit non, j'y tiens pas, j'insiste pas, ça regarde chacun. Respect quand on me dit non, respect absolu. Et puis, chacun savait que on pourrait m'arrêter, on pourrait nous dire stop, arrêter. Si on a envie de dire des choses qui ne regardent pas la caméra, les uns et les autres avaient toute liberté de nous dire. De sortir si éventuellement et aussi de une fois l'entretien fini, si on quelqu'un avait parfaitement le droit de dire au fond finalement j'aime autant pas que vous gardiez mon entretien ou que vous gardiez ça.
Et c'est arrivé
il est arrivé ici ou là qu'on me demande de de ne pas garder. Je pense à un patient qui, à un certain moment, évoque sa mère, sa famille, qui souhaitait que je ne garde pas ce passage-là. Et bien entendu, je l'ai intégré ce qui m'était demandé, bien évidemment. Il manquerait plus que ça.
Je crois que le sous-titre, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que le sous-titre de sur l'Adamant, c'était faites comme si j'étais là.
C'est pas un sous-titre.
En tout cas, il y avait un sous-titre de travail.
C'est pas le sous-titre du film, mais c'est quelque chose qui m'arrive de dire parce que.
Faites comme si j'étais là. On dit plutôt l'inverse.
On dit la plupart du temps, les cinéastes disent l'inverse. Surtout, ne regardez pas la caméra, faites comme si on n'était pas là. Je trouve ça absurde. Je trouve ça complètement. Allez, je trouve ça idiot. Pourquoi faudrait-il faire croire aux spectateurs qu'il n'y avait personne ? Et au fond, quel est le sujet de mes films, bien souvent ? C'est le film. C'est la rencontre. C'est mon cinéma, c'est un cinéma de la rencontre. Alors, il ne s'agit pas de m'effacer. Je ne cherche pas non plus pour autant à me mettre en avant, à rentrer dans le champ de la caméra, puisque c'est moi qui tiens la caméra, mais... On entend ma voix, on peut m'interpeller. Je pense à Muriel sur l'Adamant, tout d'un coup, qui me regarde. C'est à vous le matériel ? Oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça ? Oui, oui. Et vous, Eric ? Demande-t-elle à l'ingénieur du son. Non, vous n'avez pas de voiture ? C'est monsieur qui se trimballe tout ?
On la retrouve d'ailleurs, Muriel. C'est une longue scène de la machine à écrire.
Oui, ben oui, bien sûr. Et je crois que on a plaisir à la retrouver parce que c'est un, j'allais dire un personnage. C'est une personne très très touchante, très attachante. Et on va la retrouver dans le troisième volet de ce triptyque. On va la retrouver chez elle.
Elle est très impatiente de voir le film.
Et côté soignant, parce que les soignants aussi du coup, accepte d'être filmé.
Les soignants s'exposent aussi.
Ils s'exposent. Et est-ce que ça peut avoir, enfin, Linda Desiter, ça peut avoir aussi un intérêt professionnel, la participation à ce film ? Alors, parce que j'imagine que ça n'arrive jamais. Quand on est soignant, on n'a pas de retour sur la séance. Là, le fait de revoir à une place différente, peut-être ça interroge, ça peut interroger sa propre pratique.
C'est vrai que c'est une chance inouïe qu'une caméra, dans une logique assez proche de notre logique de soins, tenue par Nicolas Philibert, puisse être accueillie dans cet endroit. Donc ça signe une certaine ouverture quand même dans ce lieu. Hein. Et disons que c'est sans doute pas l'intention de Nicolas Philibert, mais que d'autres chants que le nôtre nous parlent de notre travail et nous le font entendre, nous le font voir, ça peut participer à une psychiatrie critique, une psychiatrie qui réfléchit sur elle-même. Et dans ce sens-là, évidemment, que dans le quotidien, ça peut venir soutenir un désir, c'est pas le même... C'est pas la même journée quand il y a une équipe de tournage. Ça peut soutenir un élan. Mais dans l'après-coup, ça peut être aussi un outil de réflexion, d'autocritique. Parce que dans un lieu comme ça, où il y a une asymétrie structurelle entre les soignants et les soignés, et entre quelqu'un qui filme et celles et ceux qui sont filmés, il s'agit quand même de la même question, c'est... Comment ne pas abuser de cette asymétrie-là ? Et comment faire que les uns et les autres, on soit un peu sujet de la chose ? Donc, la question de réfléchir sur le pouvoir, sur la liberté, sur qu'est-ce qui soigne, tout ça peut être réveillé, évidemment, avec un film comme celui-ci. Et c'est vrai qu'hier, j'écoutais quelqu'un qui fait partie de... notre secteur, et qui disait, au fond, c'est un film sur notre complexité humaine, et en creux, sur une certaine psychiatrie, sur une certaine critique d'une psychiatrie, parce qu'on entend bien dans les paroles des patients aussi, si vous ne prenez pas un peu soin, si vous avez le nez dans le guidon, sur votre objet, si vous ne prenez pas des détours, mais vous êtes à côté. L'humain, il prend un coup. Et donc, voilà, de le réentendre, ça, évidemment, c'est un matériel qui peut aussi nous relancer à penser, à pratiquer différemment, toujours, toujours.
Vous avez du plaisir à enseigner.
J'adore.
Vous adorez enseigner, donc je pense que, est-ce qu'il y a un lien, et ça, il faudra peut-être l'approfondir, entre un moment où vous êtes un peu trop exalté, un moment où c'est un peu, pour arriver à quelque chose où vous transmettez ce que vous avez à transmettre, sans pour autant rentrer dans quelque chose de trop engagé,
vous
parce qu'on ne demande
bon
pas
c'est exalté.
Ça. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être lié aussi, tout simplement, avec votre état psychique, qui, à un moment, va trop loin et peut effectivement être gênant dans cette, ce parti pris.
Parce que moi, chaque cours, c'est comme si je mettais ma vie en jeu.
Ben oui,
je vais essayer de faire le meilleur cours de ma vie et de vous transmettre qu'est-ce que l'art, mais pourquoi l'homme, depuis la nuit des temps, fait de l'art dans les grottes de Lascaux. Et j'essaie de... Je prépare jamais un cours normal. Et qu'est-ce que le travail? Pourquoi l'homme travaille-t-il? Qu'est-ce que... Je me lance dans ces machins, alors qu'il y a des profs, ils arrivent à faire... Bon, ben, petit 1, le bonheur selon Aristote. Petit 2, le bonheur selon Platon. Ouais. Petit 3, le bonheur selon Kant. Voilà, Pour moi, c'est de la merde, c'est pas de la philo, ça.
Et vous, idéalement, qu'est-ce que...
Oui. Idéalement, alors, je vais vous dire, ben, là, je suis content qu'on pose la question. Idéalement, je veux refonder le système éducatif européen et mondial.
Alors, c'est un extrait de votre film Nicolas Philibert, Averroès et Rosa Parks. Et c'est un des personnages les plus attachants. C'est un prof de philo dont on imagine qu'il a un peu explosé en plein vol.
Je ne dirais pas explosé en plein vol. Je dirais que c'est un... Il traverse un moment dans lequel il est un peu, en effet, il le dit lui-même, un peu exalté. Et il a besoin de faire une pause. Voilà, mais... Voilà, je dirais plutôt que ça.
La parole des patients en psychiatrie, on l'entend très rarement et elle est très particulière parce qu'on ne sait jamais réellement quel statut lui donner entre la vérité, les mondes parallèles, voire une forme de délire. Et ce que vous montrez puissamment dans votre film, c'est qu'au fond, ça n'est pas important. C'est-à-dire cette parole, elle est très opérante et elle définit de toute façon les gens... sans qu'on sache forcément si ce qu'ils disent relève de la vérité ou pas.
Oui, c'est peut-être pas la question.
C'est notre nécessité impérieuse de parler, d'avoir besoin de fictionner. C'est nos micro-fictions.
Et donc, la parole, c'est un territoire de fiction. Parler, c'est raconter... ce qu'on ressent, c'est une interprétation, c'est toujours, on parle à partir de son imaginaire, à partir de soi, à partir de son enfance, à partir de son parcours, etc. Et parler, c'est toujours, il y a toujours une part d'invention dans la parole. Et oui, je le dis comme ça, c'est comme un... C'est un lieu de fiction.
Parce que moi aussi, je me suis posé la question, et notamment Linda, il y a un patient dans le film qui parle beaucoup de son père et de son grand-père, dont on sait qu'ils sont morts. Et effectivement, les soignants ne le reprennent pas, ou en tout cas une fois ou deux gentiment, mais sinon, bon, bah, le laisse dérouler sa fiction. Ce qui fait que nous, spectateurs, quand il va parler de ses filles, on est effectivement, comme le disait Elisabeth, on ne sait pas trop quel statut apporter à cette parole. Et de fait, finalement, ce que montre l'attitude des personnes autour de lui, c'est que ce n'est pas si important. On l'accueille, on accueille sa parole.
Et c'est même drôlement important et nécessaire d'accueillir cette parole, parce que cette parole témoigne de son monde interne. Et comment rentrer en relation avec quelqu'un dont parfois le monde interne est complètement clos sur lui-même et qu'il n'y a plus de pont possible avec le monde extérieur. D'ailleurs, il dit à un moment donné, tu ne vas pas m'emmerder quand même avec ta réalité. Mais donc, en effet, nous avons à accueillir ça et essayer de mettre en place toutes les conditions possibles pour que cette parole puisse émerger, pour qu'elle puisse être accueillie. Et ça, on le voit bien dans le film, comment les conditions de dénonciation en lien avec la parole accueillie. Et puis, voilà, il ne s'agit pas de nourrir les délires, mais quand même de pouvoir entrer, traverser l'enfer psychique, parfois pour certains, avec eux, pour pouvoir introduire des variantes. Docteur Bergaoui, elle essaye d'introduire des petites variantes, quand même. Elle se décale un tout petit peu. On ne colle pas complètement. Mais au fond, c'est un moyen. C'est un moyen pour... C'est pas si facile de parler de ce qui se passe en soi. Et cette réalité-là est la sienne. C'est avec celle-là qu'il lit le monde, le quotidien, qui se tient dans la vie. Donc ça fait en même temps tuteur dans sa vie. On ne va pas lui enlever comme ça.
Oui, c'est ça, le délire, c'est toujours une façon d'apprivoiser le monde.
C'est une tentative de guérison.
Absolument. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer que cet hôpital, ce qu'il est, hein, c'est à la fois un vase clos et en même temps, il est extrêmement perméable au monde extérieur, probablement parce que les patients sont aussi des êtres plus sensibles que la norme. Et donc, ils sont traversés. On parle beaucoup, par exemple, de la guerre en Ukraine, entre autres.
Mais... beaucoup de ce qui est dit dans le film, de ces peurs, de ces angoisses, sont au fond proches des nôtres.
Bien
Quelquefois,
sûr.
Elles sont plus, peut-être un peu plus excessives, mais on partage beaucoup la peur de ne pas avoir... de statut social, de citoyenneté. Je pense à cet homme qui voudrait pouvoir payer ses impôts pour être considéré comme quelqu'un, comme un citoyen à part entière. Je pense à cet homme qui évoque l'amiante et le plomb dans la peinture de l'immeuble où il vit, la question de la guerre en Ukraine, etc. Celui qui voudrait pouvoir retravailler le plus vite possible à la poste. Toutes ces angoisses-là, on peut les partager, elles résonnent chez nous. Et c'est ce qui, sans doute, nous rend si proches, les personnes que j'ai filmées, parce que il y a un en commun, il y a quelque chose de reconnaissable chez elles.
Peut-être que la maladie, justement, c'est quand on se bloque dans une de ces modalités d'être qui est à notre disposition, parce qu'on a toute une palette de modalités d'être à notre disposition pour affronter la complexité de la vie, la tristesse, l'angoisse, la joie. Et que la maladie, c'est quand on stagne, quand on se bloque dans un de ces modalités-là et qu'au fond, le soin, l'écoute a peut-être comme but minimal d'essayer de réintroduire un peu de mouvement, de circulation dans tout ça. Parce qu'en effet, toutes ces dimensions sont les dimensions que nous partageons.
Comme si nous, on savait peut-être un petit peu mieux changer de casquette quand certains patients n'y arrivent peut-être pas. Oui.
Averroès et Rosa Parks, ce sont deux utopies hein, qui marquent, enfin les noms qui ouais. marquent les personnages, les personnes qui marquent chacune l'espoir d'un monde meilleur, un monde affranchi du racisme systémique pour Rosa Parks, l'utopie d'un monde éclairé par la raison pour Averroès, philosophe du XIIe siècle. Et ce sont deux lieux menacés. Donc il y a ces deux pôles en même temps, à la fois porteurs d'une utopie et menacés. C'est un peu le cas de tous les lieux où vous filmez, Nicolas Philibert. Est-ce que je me trompe ?
C'est assez vrai. Je filme, j'ai besoin, sans doute, pour tenir, moi aussi, dans la vie, de m'accrocher à des îlots, des petits foyers de résistance, à des gens qui essayent, contre vents et marées, qui essaie de tenir quand tout s'oppose à la fluidité, à la diversité, à l'hétérogénéité. Et parce que le monde est de plus en plus... va vers une sorte d'uniformité effrayante. Et c'est vrai que moi aussi, je me sens bien souvent menacé. J'ai une, On m'a souvent considéré comme un cinéaste très optimiste qui voulait montrer le verre d'eau à moitié plein plutôt que le verre d'eau à moitié vide. Mais en réalité, je suis quelqu'un de... Je suis un faux optimiste. Je suis attentif à, et conscient de la barbarie humaine. Et j'ai besoin de survivre. La caméra est ce qui me permet de m'approcher des autres. Les autres, souvent, nous font peur. J'ai besoin de, d'avoir moins peur, de m'approcher des autres. C'est parfois difficile, mais voilà, je vais souvent vers ceux qui tiennent, qui essayent de tenir, qui essayent de résister. Ça m'encourage, ça me donne du cœur à l'ouvrage.
Merci Nicolas Philibert et merci Linda De Zitter d'être venue nous parler d'Averroès et Rosa Parks, sortis ce mercredi. La machine à écrire et autres sources de tracas sortira en salle le 17 avril. Et en ce moment même, se tient à la Cinémathèque française une rétrospective de vos films,
oui.
Nicolas Philibert. Oui. C'est jusqu'au 31 mars.
Je suis très heureux de ça.
Très heureux.
Oui, de cette rétrospective.
Vous allez les revoir. Vous en avez déjà revu beaucoup.
Non, la rétro vient de commencer, mais j'ai déjà. Elle a ouvert avec Averroès et Rosa Parks et hier j'ai présenté La Voix de son maître, mon tout premier film, celui que j'ai fait en 78 avec Gérard Mordillat sur les grands patrons.
Merci beaucoup. Dans quelques minutes, le journal du cinéma de Sophie Torlotin. Mais avant, on écoute Amandine Bourgeois avec un titre qui est bien dans l'époque, Minimum.
Réduit au strict minimum, minimum. J'ai même abandonné Snapchat et ma télé. Ma relation de couple, je l'ai faite exploser. J'ai tout réduit au strict minimum. Je rêve au minimum. C'est bien le minimum. Tu penses que je suis folle. Je ferai pas dans l'économe. Minimum. Ma vie est une escale. Je la veux paradisiaque. Trouver l'homme fatal. Regard aphrodisiaque, minimum. Amour mille facettes, qui me fera décoller. Je me hisserai reine, il sera mon sommet, minimum. Je rêve au minimum. C'est bien le minimum. Tu penses que je suis fort. De chaleur, de mystère, de chaussures en cristal, d'une vie de lumière, minimum, le minimum. Je rêve au minimum. Thank you.
Et c'est le moment de notre journal du cinéma, Sophie. Alors, la semaine dernière, on parlait séries et séries françaises dans l'émission. Le genre a aussi ses blockbusters et le dernier en date n'est pas français du tout. Hein. C'est Le Problème à trois corps que Netflix vient de mettre en ligne.
I have to tell you something. Something insane. But true. About all of us. It started a long time ago.
Back in 1977, they detected a sequence. Called it the Wow Signal.
What's it say?
Le Problème à trois corps, c'est l'adaptation du premier tome d'une trilogie à succès, un best-seller, d'un romancier chinois, Liu Cixin. Une histoire qui mêle science-fiction, future invasion extraterrestre et révolution culturelle. Le livre était réputé inadaptable. Eh bien, pari tenu, alors je ne sais pas encore s'il est réussi, pari tenu par David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners aux commandes de Game of Thrones. Pour cette adaptation, le duo a eu les coups des franches. Hein. Ils ont bénéficié du plus gros budget jamais alloué par Netflix pour une série, à savoir 200 millions de dollars. Ça fait rêver, Nicolas Philibert, 200 millions de dollars.
Pas tant que ça.
Netflix qui fait feu de tout bois pour conserver, voire attirer de nouveaux abonnés. Et maintenant, Sophie, la saga de l'été.
Et oui, on apprend qu'Isabelle Adjani va tourner en juin dans une saga estivale se déroulant en Provence. Voilà, Netflix va sur le terrain de TF1 et France 2, hein, qui s'étaient spécialisés dans ce type de programme d'été transgénérationnel. Isabelle Adjani jouera la matriarche d'une famille prospère régnant sur une exploitation florale et dont le mari est assassiné. Netflix produit de plus en plus de films et séries localement. Actuellement, 40 productions sont tournées en Europe.
Et donc, c'est sur cette note télévisuelle que se termine l'émission cette semaine. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré. À la réalisation, Jérémy Boucher.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. On parlera de la très riche programmation documentaire du Festival Cinéma du Réel à Paris. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.